Société avec Nick Payne.
Bonjour, très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Merci à vous d'être à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'autre bout du tuyau technologique, bien à l'écoute. Alors aujourd'hui à l'émission, des sujets fort intéressants, des invités intéressants aussi, puisque nous allons discuter avec Marie-France Bazot, productrice, animatrice, sociologue de formation, qui publiait un livre le 10 novembre qui s'appelle « Nous méritons mieux ». Repenser les médias au Québec. Alors, c'est une proposition, c'est une critique, bien sûr, assez dure de la culture des médias, mais c'est aussi un regard sur plus large que ça, là, sur la société québécoise. Nous y revenons tout à l'heure avec Marie-France Bazot. Et tout de suite, bien sûr, nous parlons de l'actualité politique de la semaine, et elle est foisonnante, comme d'habitude, avec les Frédéric de l'actualité. Donc, Frédéric Bérard, maître Bérard, on le dit pas assez souvent, il faut quand même rendre à Bérard ce qui est à Bérard. Bonjour Frédéric Bérard.
Je sais pas quoi répondre à celle-là.
Chroniqueur au journal Métro, répondez rien, c'est pas grave. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et militant, membre du Parti québécois. Bonjour Frédéric Lapointe.
Bonjour, ne m'appelez pas maîtresse, s'il vous plaît.
Non, on a beau vouloir être, comment dire, paritaire, ici, voilà. On passe même pas proche pour aujourd'hui. Quoique, il y a Marie-France Bazot plus tard. Mais vous, Frédéric Lapointe, êtes-vous au Conseil national virtuel du Parti québécois?
Mon engagement maintenant est à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, dont je suis le trésorier, ainsi qu'au Mouvement national des Québécois, où je suis l'un des administrateurs.
Bon, alors c'est dit. Allons dans nos sujets, dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Vous vouliez, Frédéric Lapointe, parler de Cathy Wong. Alors, j'explique à nos auditeurs que c'est une membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, mais je vous rassure, pour ceux qui sont en dehors de Montréal, sa sortie cette semaine appelait un débat qui ne touche pas là, la politique municipale montréalaise. C'est plus large que ça. Madame Wong demandait à ce que Marvin Rotrand, alors ça, c'est un élu anglophone d'une circonscription anglophone à Montréal, enfin, très plutôt anglophone, qui est en poste depuis 38 ans. Madame Wong lui demandait de se désister pour la prochaine élection parce que, dit-elle, il faut faire de la place pour la diversité. Il s'est avéré que M. Rotrand étant juif, des protestations se sont faites entendre et Mme Wong a ajusté son discours en disant « Écoutez, c'est surtout parce qu'il est trop vieux ou parce que ça fait trop longtemps qu'il est en poste. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ça, Frédéric Lapointe? »
Que M. le conseiller ait été juif ou pas ne rend pas le commentaire plus recevable. Madame Wong, qui a bien des qualités, qui s'occupe de ses dossiers avec brio, a vraiment illustré ici la dérive du discours visant la promotion des uns et des autres dans toutes sortes d'espaces. Il y a une telle chose que...
Vous voulez dire de la diversité, c'est ça, des différentes identités?
Diversité, identité, jeune, vieux, nommez-le. Il y a une telle chose que le droit de vote. Et on n'imaginerait pas qui que ce soit dire au nom de quoi que ce soit à quelqu'un de s'abstenir de voter pour faire plus de place aux autres. Le droit d'être candidat, de s'offrir aux électeurs, de leur permettre de choisir, je vous soumets que c'est tout aussi inaliénable et indiscutable que le droit de vote. Et de dire que non, c'est parce qu'il est vieux ou parce qu'il est là depuis longtemps, je ne l'ai pas vraiment ciblé, c'est dommage parce qu'on m'insulte sur les médias sociaux, ça remet en cause mon goût de la politique parce qu'on m'insulte. Il y a toutes sortes d'allusions ici à l'effet qu'il serait justifié de jeter un anathème ou de s'en prendre à des élus parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont vieux, surtout pas parce qu'ils sont juifs, et qu'en plus, on ne devrait pas nous critiquer lorsqu'on le fait, parce qu'on a d'autres caractéristiques essentielles qui devraient nous protéger de la critique publique.
Oui, Mme Wong,
elle... Et le fait que ce ne soit pas admis m'inquiète au plus haut point.
Madame Wong, elle porte haut et fort ses origines asiatiques, je crois. Vous avez décrit un peu sa réaction aux critiques qu'elle a reçues, mais Frédéric Lapointe, juste un instant là-dessus, vous avez parlé du droit inaliénable, comme le droit de vote, de se présenter en politique, mais c'est pas si vrai que ça dans plusieurs pays. On limite le nombre de mandats à certains échelons politiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même matière à réflexion, là. Vous, est-ce que vous seriez en faveur d'une limite au nombre de mandats que peut faire un élu municipal, par exemple?
La plupart du temps, ces limites sont instaurées pour protéger la démocratie elle-même. Par exemple, si un président américain pouvait renforcer son emprise sur l'État américain en 4 mandats, la difficulté à laquelle on ferait face.
Oui, il y en a qui essayent de le faire dans un seul mandat. Oui,
voilà.
Oui.
Mais de pointer du doigt un élu indépendant qui gagne ses élections le plus honnêtement du monde, contre vents et marées, qui est apprécié de ses électeurs, et là, on laisse entendre qu'il ne devrait pas se présenter pour que ses électeurs aient quelqu'un qu'ils ne choisissent pas, c'est une suggestion qui m'apparaît inadmissible. On peut discuter de la durée des mandats, on peut discuter du nombre de mandats, mais pointer du doigt en disant qu'il ne devrait pas exercer son droit à la candidature pour quelque raison que ce soit me semble hautement abusé.
Frédéric Bérard, vous qui êtes à la fois woke et critique des woke, est-ce que c'était Cathy Woke ici qui parlait? Pardon, c'était trop facile. Mais est-ce que vous accédez à la critique de Frédéric Lapointe?
Oui, en bonne partie. Oui, je pense que Frédéric résume bien le truc. En tout cas, moi, je me suis pas intéressé trop à cette histoire-là parce que quant à moi, c'est une nouvelle fricassée de l'absurde. Premièrement, je pense pas qu'elle a pointé Rothman du doigt parce qu'il était juif. Là franchement.
C'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Non, soyons clairs.
Mais là, dans le camp. Rothman, on laisse croire qu'il y avait peut-être un soupçon de...
C'est parce qu'elle a dit il faut faire place à la diversité. Puis, alors, on a répondu, homme est juif.
La sortie de Cathy Wong était absurde à la base. Là, ça, à mon sens, c'est assez clair. Et puis là, de toute façon, c'est parce que là, on tombe dans quoi? Dans une espèce de hiérarchie de diversité. Genre, on aimerait avoir un peu plus de couleur, donc on va sacrifier des gens un peu plus âgés. Puis là, en plus, ils disent, qu'est-ce que tu veux? Ça se fait comme ça. Qui décide de ça? C'est quoi cette espèce de terrorisme intellectuel où là, on décide que toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas pas? Là-dessus, je rejoins Frédéric. Le jour où les gens ne voudront plus de cet élu, ils voteront pour quelqu'un d'autre et ça finit là, ou son parti ne le reconduira pas.
Maintenant, est-ce qu'on peut faire de la politique trop longtemps? Est-ce qu'on devrait limiter, par exemple, le nombre de mandats pour un élu municipal?
Je pense pas, parce que je me suis posé la question pendant que vous la posiez à Frédéric, puis disons que c'est pas une réflexion très longue, mais je comprends, aux États-Unis, on va rapport à la présidence et tout, des trucs du genre. Mais en même temps, est-ce que les élus ne peuvent pas bénéficier de l'expérience d'un ou deux, de quelques vieux routiers? Je pense par exemple à Gendron à l'Assemblée nationale, qui a été un mentor pour combien de jeunes députés qui sont débarqués là, clopin, sans trop savoir quoi faire. Je pense que ça prend une espèce de d'éminence grise, en quelque sorte, un vieux ou une vieille sage, ou plusieurs. Moi, discriminer sur la base de l'âge au nom qu'on doit faire place à de la diversité, je trouve ça d'une insignifiance, pour pas dire c'est un oxymore absolument patent, mais au-delà de ça, pourquoi on cherche pas à bénéficier? On dit que ça prend plus de jeunes en politique. Moi, j'ai jamais été de ceux qui s'excitent fort avec la question de l'âge. Ça prend plus de jeunes, des jeunes. On veut des jeunes. Pourquoi?
Parce que c'est pour renouveler la politique, pour faire de la nouvelle politique, n'est-ce pas?
Tu peux être jeune et être un beau sans dessin en même temps. Là, je veux dire, c'est pas parce que t'es jeune que tu vas nécessairement apporter quelque chose de nouveau. C'est pas parce que t'es vieux que t'es croulant et que t'as des vieilles idées de débiles non plus. Là, je veux dire, c'est une espèce de caractéristique qui me semble un peu facile. En fait.
Simplification. Et on devine que vous n'avez plus 30 ans, Frédéric Bérard. C'est peut-être que vous êtes jugé parti. Puisqu'on est dans le sujet, Adib Al-Khalidi a fait réagir cette semaine suite à son passage à une émission de Radio-Canada qui s'appelle « Tout le monde en parle », dont nous allons peut-être parler plus tard aujourd'hui, mais en disant que, en revenant, en tenant ce discours qu'on entend là, depuis quelques années sur le prétendu, disons-le comme ça, manque de diversité dans les médias québécois. Al-Khalidi, en outre, ajoutait là, qu'il a été lui-même victime de racisme lorsqu'il était jeune. Il a grandi dans le quartier de Saint-Laurent, Montréal, un quartier très multiethnique par ailleurs. Et il disait essentiellement, je paraphrase, je ne me souviens pas de sa citation, de ses mots exacts, mais ça allait comme suit, il disait « Nous sommes en train de priver un nombre incalculable de jeunes de la possibilité de devenir Québécois. » C'était quand même une belle formule, très, très inspirée, mais Frédéric Lapointe, je m'adresse à vous d'abord parce que vous avez étayé, vous, une thèse déjà dans cette émission sur la diversité, par exemple, là, chez les fonctionnaires de la Ville de Montréal, en disant on ne peut pas juger aujourd'hui, comment dire, il est normal que le taux de diversité actuel ne soit pas tout à fait en accord avec ce qui se passe dans la rue parce qu'il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans une situation qui bouge, qui change vite et les gens qui sont à l'emploi de la ville ont été engagés en moyenne il y a 20 ans et par conséquent, la situation actuelle reflète ce qui se passait il y a 20 ans. Qui plus est, vous ajoutez que les gens qui travaillent à la Ville de Montréal peuvent venir de l'extérieur de l'île et par conséquent, ça change ça aussi, la sociologie, la démographie, la sociologie, oui, des gens qui travaillent pour la ville. Bref, est-ce qu'on peut appliquer la même chose au monde culturel? Est-ce que vous êtes d'accord avec Al-Khalidi ou au contraire, vous pensez
le
qu'il...
Problème est le même. Le problème est le même, c'est qu'il y a, pour toutes sortes de raisons légitimes, j'entends ce que dit l'ami Adib, je l'entendais il y a 10 ans, il y a 15 ans, des reportages se promenaient dans les écoles francophones de Montréal et les jeunes, les adolescents disaient, racontaient cette forme de crise identitaire ou cette forme de non-identification, de difficulté d'identification. Donc le malaise est vrai. Je veux que vos auditeurs comprennent cela. Ce malaise, il est vrai, il n'est pas inventé, mais c'est vrai qu'il repose sur, comment je dirais, le phénomène du temps et de la géographie. Hein. Il n'y a pas de racisme derrière ça. Il est normal que des gens qui vivent à Montréal regardent une télé québécoise et considèrent que ça ne ressemble pas à leur quartier. Maintenant, pourquoi est-ce que aujourd'hui la parole se libère à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un effet qui nous vient des événements aux États-Unis qui pousse dans le dos des gens pour exprimer leur malaise? C'est très possible et c'est correct. Maintenant, il ne faut pas verser dans l'abus, il ne faut pas prendre pour argent comptant des perceptions qui sont fausses. La télé québécoise va s'ajuster, la fonction publique s'ajuste.
Alors, quelles sont ces perceptions?
Pour empêcher les gens de devenir québécois.
Alors, les fausses perceptions, ce serait l'idée que la télévision refuse, par exemple, la diversité, c'est ça?
Exact.
Frédéric Bérard, est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce, dans ce débat-là, perpétuellement? C'est la situation toute particulière du Québec, où il y a une majorité qui peine à intégrer de la même façon, avec la même efficacité que chez nos voisins canadiens ou états-uniens, où là, il va de soi qu'il y a une sorte de rouleau compresseur culturel qui intègre les gens rapidement, qui n'ont même pas le temps de se demander s'ils sont intégrés ou non, ou si on veut d'eux ou pas, quoique il y a là-bas aussi quand même des discours qui remettent en cause l'ouverture à la diversité, en fait, qui critique un manque d'ouverture à la diversité. Mais donc, imaginons le Québec. Est-ce que du simple fait que ce soit plus difficile pour nous d'intégrer, est-ce que ça explique pas en partie cette perception qu'ont certains immigrants ou fils d'immigrants là, qu'ils sont mal vus ou mal perçus ou peu présents dans les médias?
Ben, c'est certain qu'il y a toujours eu puis qu'il y aura probablement toujours, compte tenu de notre situation géopolitique, un certain sentiment de frilosité chez les Québécois, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à sa propre culture, par rapport à la survie de sa nation. On le voit en rapport à la langue française pour l'instant. Mais c'est une fois qu'on a dit ça, par contre, moi, premièrement, j'ai été très touché par le discours en question, le propos « À tout le monde en parle ». il faudrait être cohérent parce que on dit souvent, même chez des nationalistes plus crinqués, si je peux dire, et Québécois qui le veut et blablabli, blou-blu, bon, ben tant mieux. Mais ce gars-là, comme beaucoup d'autres maghrébins, ne demande que ça. Être Québécois, il l'a dit lui-même. Il est
ben alors, je vous pose la question. Vous en avez rencontré, vous, des immigrants ou des fils d'immigrants dans Côte-Saint-Luc ou ailleurs qui n'ont pas l'air de vouloir tant que ça s'intégrer au Québec? Non, il faut quand même le dire, non?
C'est là que je m'en allais un peu, Nick, parce que, évidemment, une fois qu'on a réglé la question de la langue, là, la question d'intégration est drôlement plus simple. Est-ce que c'est, comment vous disiez, Bocoté, l'inversion du devoir d'intégration?
Êtes-vous en train de citer Bocoté, vous, là?
Ben, ça m'arrive parfois dans mes bonnes journées. Mais l'affaire, c'est que, prenons juste l'exemple des Maghrébins. Prenez l'exemple d'un Marocain, prenez l'exemple d'un Algérien qui parle français, qui débarque ici, qui, pour lui, la question de l'autodétermination des peuples, qu'elle soit externe ou interne en droit international, a toujours été vue comme une excellente chose. Cette personne-là parle français, ça se trouve aussi bien, sinon mieux que moi. Et ses enfants vont évidemment à l'école en français, non parce qu'ils sont forcés par la loi 101, mais parce que ça aurait été leur choix de toute manière. Ils ne demandent qu'à partager avec le reste des Québécois. Et si ces gens-là ressentent une barrière, ressentent une espèce une espèce d'obstacle majeur qui, soit par la représentativité à la télé, soit par la représentativité dans l'espace public tout court, ben peut-être qu'on a un problème, puis peut-être qu'il serait une bonne idée de leur tendre davantage la main, parce que de se refermer sur soi, en quelque sorte, en disant, ben ils veulent pas s'intégrer, moi, je pense pas que ça s'applique.
Mais là, vous êtes en train de dire, Frédéric Bérard, qu'il y a un manque de diversité et que c'est parce que c'est la faute des Québécois, non, canadiens-français, c'est parce qu'on refuse la diversité, c'est parce que
qu'on se comprenne bien, la solution précise, je ne l'ai pas nécessairement, puis je ne suis pas en train de dire que les Québécois sont fermés d'esprit, c'est pas ce que je dis, c'est que nécessairement, il y a des angles morts, c'est-à-dire le blanc francophone privilégié que je suis, ben moi, je ne peux pas savoir si un Maghrébin se retrouve ou se retrouve pas dans les médias québécois parce que j'ai nécessairement pas ce biais-là, parce que je n'utilise pas ce prisme d'analyse-là. Ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que parfois, il faut fermer sa gueule, écouter ces gens-là, puis arrêter de leur rentrer dedans, comme a fait Lisée dans Le Devoir, dire, non, moi, te le dire, moi, comment c'est. Tu sais, tu peux aussi écouter, puis dire, OK, ça va. S'il y a juste une personne qui dit, peut-être que c'est pas représentatif, mais rendu à centième, à millième, peut-être que ce serait. Puis par rapport aux Maghrébins, je vais compléter mon exemple là-dessus, puis là, je sais que je vais faire défriser certains auditeurs, mais je m'en fous. C'est qu'on arrive avec ces gens-là qui ne veulent que ça s'intégrer ici, puis là, on leur plaque au nom de je ne sais trop quoi, une charte des valeurs dans la gueule, après ça, une loi 21, après ça, on s'étonne que ces gens-là se sentent moins québécois. Mais je veux dire, ça prend pas tête à Papineau, là.
Ah, ben là, vous pourrez toujours dire que Parizeau avait dit, lui aussi, que la charte des valeurs du Parti québécois, à l'époque, était de nature à éloigner certaines communautés du projet québécois. Mais
on pourra surtout dire que les premiers à réclamer une telle loi étaient eux-mêmes d'origine maghrébine.
Mais je vous en... C'est vrai, mais je vous en supplie, n'allons pas sur ce sujet, parce que on a seulement une heure d'émission et une saison à faire. Mais restons un peu dans le même sujet. On dirait qu'on fait exprès aujourd'hui. Alors, Emmanuela Lambropoulos, qui est justement députée de Saint-Laurent, comme quoi tout est dans tout, encore une fois, qui est aussi membre du comité sur les langues officielles à Ottawa, qui a fait part de son doute quant à la véracité là, de l'idée voulant que le français soit en recul à Montréal. Elle disait, je ne veux pas dire que c'est un mythe, mais patati patata, bli blablu, comme dit Frédéric Bérard, finalement, ça revenait à dire que c'était un mythe. Et de façon, à mon point de vue, assez étonnante, elle a été assez virulemment recadrée par son parti, y compris par Mélanie Joly, madame langue francophone, et aussi par Pablo Rodriguez, le lieutenant québécois. Et on est allé même jusqu'à dire que le Parti libéral du Canada, ça c'est Rodriguez, ça qui disait que le parti reconnaît le problème et pourrait même reprendre des éléments là, de la proposition du Bloc québécois là, sur la... l'intégration, sur le fait d'exiger une maîtrise du français, par exemple, chez ceux qui voudraient devenir citoyens canadiens et qui résident au Québec. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le Québec vient de rentrer dans le club des victimes de Justin Trudeau? Est-ce que soudainement on existe?
Oui. Mais soulignons que c'est aussi le...
Mais vraiment, là, ou c'est une frilosité parce que là, le bloc est...
Oui? Non, tout à fait. Faut reconnaissons ça, là. Le discours victimaire francophone, il fait partie d'un environnement où le discours victimaire est mieux accueilli politiquement sur la scène canadienne, c'est correct. Mais il y a aussi la concurrence politique, c'est-à-dire que dans quel espace politique est-ce que le Parti libéral, aux prochaines élections, peuvent croître? Le Québec est encore un terrain sur lequel ils peuvent miser pour gagner des sièges. Et il y a le Bloc québécois dans l'environnement, il y a des conservateurs qui sont capables de tenir une position plus nationaliste. Et donc, c'est aussi le fruit de la concurrence politique. Mais je ne veux pas enlever le mérite non plus à l'ami Mélanie Joly ou à Stephen Guilbeault ou à M. Pablo Rodriguez. Ils font bien leur travail et c'est un travail très important. Je veux dire, moi, à la Société Saint-Jean-Baptiste, je peux entrer en relation avec les Lambrou-Poulos de ce monde. Ma capacité de les convaincre, de leur faire changer d'avis est quand même mince.
Bon, alors, on vous en donne la mission, mais...
Il y a des porte-parole fédéraux qui disent c'est comme ça que ça se passe au Québec.
Là, le temps nous bouscule. Il nous reste deux minutes. Frédéric Bérard, Maître Bérard, je vais vous parler des limites de la liberté d'expression. Oh. C'est une déclaration de Stephen Guilbeault à la même émission qu'Adib Al-Khalidi, qui disait à peu près ceci. Il disait la liberté d'expression est un droit qui se termine là où la blessure de l'autre commence. Je vais vous poser la question simplement. C'est pas une énormité, ça?
Ah, c'est plus qu'une énormité. C'est parfaitement débile. Débile de chez débile. Enlever ça à ce moment-là des chartes à liberté d'expression, enlever ça des documents internationaux, ce serait une vraie perte de temps. Parce que si c'est rendu la liberté de la bonne expression.
Ben oui, est-ce qu'on confond la bienséance, la politesse, la sensibilité?
Je ne peux pas croire qu'après la gaffe que Trudeau a fait en rapport aux caricatures de Mahomet puis l'espèce de métaphore je crie au feu dans un cinéma, que Guilbeault va relancer cette même balle-là. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose, c'est pas parce que j'ai le droit d'insulter un arabe que je suis obligé de le faire. Peut-être que je suis un imbécile en insultant les arabes, ça se peut. L'affaire, par contre, c'est qu'on a le droit d'être imbécile. Maintenant, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de l'exercer.
Alors, dans les limites de la loi.
Oui, puis d'ailleurs, si je peux boucler la boucle avec ça, si vous me permettez rapidement, par rapport à Madame la députée de Saint-Laurent. Moi, il y a quelque chose qui m'achale là-dedans. C'est que là, on était parti sur... Puis je pense que
Emmanuela Lambrou-Poulos, donc. Ouais.
Voilà, on était d'accord sur le fait que qui est effectivement persona non grata dans son parti. Ça, je vous confirme ça. Mais reste que... Est-ce qu'il est normal et acceptable, parlant de liberté d'expression, Nick, que quelqu'un qui nous dise qu'elle a un doute sur la portée réelle du déclin du français au Québec, est-ce que ça vaut une annulation comme celle-là?
Bonne question. Frédéric Lapointe, en terminant là-dessus, est-ce que la révolution mange ses enfants?
Oui, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus. On doit pouvoir questionner ces choses sans se faire lancer des roches. Et il nous arrive, je dis nous les nationalistes en faveur du français, il nous arrive d'avoir l'épiderme un peu sensible.
Mais c'est pour ça que je vous demandais si c'était vrai, là, cette conversion des libéraux, ou si c'est pas justement une question de sensibilité, d'épiderme et de mise en marché. Mais vous nous avez un peu répondu. De toute façon, on n'a plus de temps, alors je vous pose la question sans vous laisser répondre. Chers amis, le duo des Frédéric, merci. À très bientôt, la semaine prochaine probablement. À la prochaine.
Si on n'est pas annulé.
Okay, oui, c'est ça. Portez-vous bien. Chers auditeurs, dans un instant, nous discutons avec Marie-France Bazot. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
À Alors, Marie-France Bazot est productrice, animatrice, sociologue de formation. Vous l'avez fort possiblement connue lorsqu'elle animait l'émission Indicatif présent pendant plus d'une dizaine d'années à la première chaîne de Radio-Canada. Vous l'avez peut-être vue, sinon, ou encore à Bazot.tv à Télé-Québec pendant une dizaine d'années, là aussi. Et elle vient nous parler aujourd'hui de cet ouvrage, son livre qui s'appelle « Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec ». C'est publié chez aux éditions du Boréal tout récemment, là, le 10 novembre. D'abord, bonjour Marie-France Bazot.
Bonjour Nick.
Merci d'être avec nous ce midi. Dites-moi, alors je parle un instant de votre livre que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. C'est un livre, on reconnaît vos talents d'animatrice parce que vous avez le sens du rythme des images. C'est très agréable à lire, je dois le dire. Maintenant, dans cet ouvrage... Mais c'est la moindre des choses. Et donc, vous, dans cet ouvrage, vous nous donnez des clés pour comprendre la culture des grands médias. Vous parlez aussi de la société, la société médiatisée, puis aussi la société au sens plus large, là, lorsque vous parlez, par exemple, du rapport des Québécois à leur territoire, et puis vous nommez certains atavismes typiquement québécois, mais aussi vous faites une critique assez cinglante de ce milieu donc des médias qui pourrait presque ressembler à un cliché parfois, donc cette espèce d'entre-soi où on s'auto-congratule, les vedettes invitent d'autres vedettes pour parler de leurs affaires de vedettes et les humoristes deviennent des spécialistes de tout et de rien. Et puis la dictature des A, là, donc ces invités de prestige, de premier rang qu'avait dénoncé Pierre Lapointe. Le conformisme tonitruant dont vous parlez au début du livre, je pense que c'est un peu au cœur de cette critique que vous faites des médias. Vous appelez à un changement de culture, non?
Oui. Je dois dire aussi que c'est un livre que j'ai écrit, non pas pour le milieu. Pour l'instant, ce sont des gens du milieu qui lisent le livre pour faire des entrevues, mais c'est un livre qui s'adresse au grand public parce que c'est à eux que je m'adresse. Quand je dis nous, je m'inclus, même si je suis animatrice et productrice et que je parle d'une position privilégiée pour décrire ce qui se passe. Je m'inclus aussi dans le nous. Je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de médias. Je suis une citoyenne et je trouve de ce point de vue-là que on ne nous donne pas ce à quoi on a droit puis ce à quoi on pourrait s'attendre. Et donc, ce nous-là est vraiment celui des gens, entre guillemets, à qui sont destinés les émissions, les articles, les programmes, bref, tout ça, la programmation. Et c'est vraiment nous citoyens, et en général, le grand public ne sait pas comment ça fonctionne, ne sait pas pourquoi on est condamné à recevoir un genre d'émission précis, pourquoi il a l'impression que c'est tout le temps le même monde qui dit tout le temps la même affaire, et j'explique, je donne des clés pour comprendre, mais c'est vraiment un livre qui s'adresse avant tout au grand public, à ceux et à celles qui consomment les émissions et les articles.
Alors, ce que vous proposez, c'est de faire moins de nivellement par le bas, hein, de s'adresser davantage à l'intelligence des gens. Alors, les gens, vous parlez de cette expression et vous la décryptez pour nous dans notre livre. Vous dites que ces mots-là sont employés par le monde des médias souvent pour regarder de haut un peu la population, les citoyens, bref, et pour d'une certaine façon excuser un certain nivellement par le bas en disant les gens vont changer de poste, hein, si on commence à trop réfléchir, à élever le débat. Vous référez par exemple à ce dimanche soir de grande écoute à Radio-Canada où la blague de mon oncle vient toujours aplatir un peu la conversation au moment où ça pourrait s'en aller quelque part. Est-ce que vous êtes sûr de ce pari-là? Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas vous répondre « Oui, mais il y a toujours des gens, et on le voit très bien en ce moment pendant la pandémie, là, qui, même si on leur offre de l'information, vont préférer les théories du complot, les potins. »
Bien sûr, c'est une partie de la population, mais ce n'est pas pour rien non plus que beaucoup de gens, entre guillemets, se détournent des médias. D'une part, beaucoup de personnes qui travaillent dans les médias et ou qui dirigent les médias ont oublié à qui ils s'adressaient. On fait des émissions entre nous, on décide d'émissions, on décide de ce qui va intéresser le monde. On se offre de toute façon pas d'émissions littéraires ou pas de propos un peu trop scientifiques ou trop poussés ou trop intello, entre guillemets, parce que les gens ne comprendront pas. De toute façon, c'est pas ça qu'ils veulent. Puis regarde les focus groups, ça montre que le monde aime ses vedettes. Oui, en grande partie, puis je dis pas que ça ne prend plus de vedettes. C'est sûr que c'est un moyen d'attirer l'attention, de capter l'attention, mais après ça, on peut aller chercher des invités moins connus ou qui parlent d'autres sujets ou qui ont une expertise plus pointue. Et les gens, en général, sont moins cons qu'on pense. D'une part, ils ne se sentent pas représentés. C'est ce qui fait que beaucoup défient les médias en ce moment, se méfient des médias ou tout simplement coupent le cordon, ne regardent plus la télé, délaissent la radio, s'en vont écouter leur podcast parce que là, ils trouvent vraiment des sujets qui leur parlent, qui les intéressent, ou se font leur information à la carte en allant piger un petit peu dans des journaux américains ou dans des journaux français ou en écoutant des trucs qui se passent ailleurs. Mmh. Donc, il y a vraiment un détournement parce que on ne donne pas au grand public ce à quoi il aurait droit, c'est-à-dire infiniment plus de diversité, on pourra y revenir, toutes les diversités. Et d'autre part, il y a une espèce de mépris. On imagine que le public n'est pas capable de s'élever. On imagine qu'il ne faut pas monter le niveau parce qu'on va les perdre. Et si vous... ce qui est une grosse erreur, parce que si on continue à faire uniquement ce que les codes d'écoute, qui sont supposés être le sondage ultime, ce que les codes d'écoute disent que le monde aime, d'une part, on les méprise, on n'essaye pas d'élever le niveau, puis c'est notre job dans les médias d'essayer de tirer un peu vers le haut. Et chaque fois qu'on tire vers le haut, ça ouvre des portes. Et c'est pas vrai que c'est sûr que des émissions qui ne tireront jamais, comme par exemple Tout le monde en parle, tirait, devrais-je dire. Mais c'est pas nécessaire. Il y a des chaînes publiques dont le premier mandat n'est pas de faire de l'auditoire, de faire de l'audience. C'est de parler de ce dont les autres ne parlent pas, c'est de couvrir toutes les réalités d'un pays. Donc, c'est pas obligé que ça tire à 1 million chaque émission, mais il est nécessaire qu'on parle à tous de tout.
Alors, vous parlez de cette frilosité, cette difficulté, ce défaut d'audace, d'une certaine façon. Si je comprends bien, vous dites que c'est un phénomène grandissant. C'est pire qu'avant, si on veut, mais je crois comprendre que ça existait déjà, mais c'est amplifié par la crise actuelle qui vient de la révolution technologique, les réseaux sociaux qui rentrent là, de plein fouet, qui viennent tout bousculer, tout changer, qui rendent les médias traditionnels qui les mettent devant l'urgence de séduire. Et chemin faisant, ils choisissent souvent d'aller vers le clientélisme et par conséquent de se camper dans des corridors idéologiques très, très étroits. C'est bien ça. Je pense que vous parlez notamment et je le dis aux auditeurs, là, si je parle de Radio-Canada ou d'autres stations de radio, c'est pas parce que je pense que moi je fais mieux ici aujourd'hui, mais parce que c'est le sujet de l'émission. Bref, vous déplorez une époque où on ratissait un peu plus large tout de même. On était moins pris, alors Radio-Canada à gauche, Québécois au centre droit ou à droite, et ainsi de suite, non?
Je suis pas du tout nostalgique. Je ne regrette pas cette époque-là. C'est une époque où la société était moins polarisée, où elle était plutôt polarisée sur un axe qui est un petit peu révolu aujourd'hui, celui nationaliste, fédéraliste. C'était vraiment le seul axe autour duquel s'articulaient les débats. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. La société est infiniment plus fracturée, plus polarisée. Mais je ne suis pas nostalgique de ce temps-là.
Non, c'est ça. Mais vous critiquez ce...
Oui, je le critique, mais j'aspire et je donne des pistes de solutions parce que je crois vraiment et que la société peut se sortir de cette polarisation-là et que les médias, qui sont un instrument qui aide à couper la société ou à retisser des liens, je crois vraiment qu'on peut les améliorer et ce faisant retisser des liens dans la société. Mais je ne suis pas nostalgique de... Je m'ennuie tellement pas des beaux dimanches dont j'ai connu la fin enfant. Il faudrait pas retourner là. On a plein d'autres thèmes auxquels on s'intéresse. On a une autre manière de faire de la radio, de faire de la télé. Je suis tellement pas nostalgique de cette époque de Bobineau et Bobinette. Vraiment, on fait mieux. Honnêtement, on fait mieux.
Ah ben j'ai grandi avec Bobineau et Bobinette pour ma part, mais je voulais pas laisser entendre que vous étiez nostalgique, mais vous dites que, parlons par exemple d'indicatifs présents, vous pouviez recevoir à la fois Mathieu Bock-Côté et Jean Barbe. Aujourd'hui, on sait que si on veut entendre parler de racisme systémique et de culture du viol, on va à tel poste. Et si, par contre, on veut entendre parler d'identité, on va à tel autre poste. Oui. C'est ça le problème, non? Il y a une sorte du fait qu'on compartimente, le débat n'advient plus.
Effectivement, le débat n'advient plus parce que les réseaux se sont vraiment campés idéologiquement, puis on sait d'avance... Qui va écrire quoi et sur quel ton, selon le sujet du jour, dans le Journal de Montréal. Et on sait très exactement comment, sur les plateformes de Radio-Canada, ça va sortir sur le même sujet. Bon, donc le débat se fait presque malgré lui par empire interposé. Mais par ailleurs, je crois fondamentalement que partout, sur tous les réseaux, prenons l'Empire québécois et prenons Radio-Canada, je crois que les recherchistes continuent à proposer des sujets qui essayent de sortir de la ligne de parti de la station, que les animateurs, certains animateurs essaient de faire différent, que des réalisateurs y croient, puis que ça se heurte en haut à des lignes de parti, justement, des velléités de faire selon l'idéologie du média représenté. Mais je crois fondamentalement que les gens qui travaillent aux différents échelons dans cette chaîne de production médiatique essayent de faire passer autre chose, mais en ce moment, et je crois que pour quelques années encore, il y a une telle polarisation, c'est tellement campé, c'est tellement crinqué que ça n'adviendra pas. Mais ça dépend encore du monde. Il y a, quand on écoute Radio-Canada, il y a des... Tout n'est pas... c'est pas autant radio-woke qu'on peut l'imaginer. Il y a encore des animateurs, des animatrices.
Ah, il y a des Stéphane Bureau. Oui, oui.
Mm-hmm. Oui, il y a des Serge Bouchard. Il y a du monde.
Mais ils sont vus comme de vieux hommes blancs impériaux.
Absolument. Oui. Mais ils font, en attendant, entendre une voix différente de celle de plusieurs de leurs collègues.
Bien sûr.
Cette voix-là existe de la même manière que Le Devoir ne pense pas tout de la même manière. Il y a quelques voix différentes. Il y a une pluralité d'opinions malgré tout dans la presse. Il y a partout des voix un peu différentes. Dieu merci, mais c'est vrai que les médias ont tendance à s'ériger comme des silos qui ne se parlent pas et qui propagent leur bonne nouvelle.
C'est intéressant.
Leur vision de la bonne nouvelle.
C'est intéressant que vous parliez de ligne de parti à cet égard. On pourra se demander dans une autre émission ce que ça veut dire pour les partis politiques qui, eux, ne sont plus les seuls à avoir des lignes de parti. Mais parce que des fois, on ne sait même plus où ils logent. Pensons au Parti québécois qui n'est plus certain de sa ligne de parti du tout depuis plusieurs années. Pendant que les médias, eux, le sont plus que jamais. Mais on reviendra là, sur ce corridor idéologique de plus en plus étroit de chacun des médias et surtout sur le rôle des réseaux sociaux là-dedans dans un instant. Là. Mais juste passer par l'opinion, parce que c'est un autre sujet dont vous traitez dans votre livre, oui. Et c'est très intéressant ce passage-là. Vous parlez de l'opinion à toutes les sauces, l'opinion comme pathologie du journalisme. Hein? L'opinion, on comprend que vous parlez de l'excès d'opinion ou de l'opinion qui remplace justement le débat ou l'information. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? D'où ça vient et quel est le problème?
Voilà, ça vient, ça date d'il y a une bonne dizaine d'années, on a toujours vu un peu d'opinion, du commentaire, des chroniques d'humeur. Mais l'opinion vraiment très, très, très répandue, d'une part, ça vient de la crise structurelle et économique des médias.
Ça coûte pas cher.
L'opinion, il faut savoir que ça coûte infiniment moins cher que de former des journalistes, de parler de faits, de fouiller certains dossiers, de faire du journalisme d'enquête ou simplement de couvrir, d'avoir du journalisme parlementaire, d'avoir du journalisme un peu partout sur le terrain, que ce soit local, très local ou que ce soit à l'international. De l'opinion, les opinionneurs sollicités un peu partout coûtent quand même cher. Ça c'est quand même de très bons salaires, faut pas se faire d'illusions. C'est très bien payé, mais tout ça coûte quand même infiniment moins cher que le journalisme de terrain. Donc, il y a cette considération économique avec la crise des médias. Ça coûte moins cher d'avoir quelqu'un qui va donner une bonne opinion deux fois par jour que une salle des nouvelles, par
exemple. Et ça fait du clic, évidemment. Ouais.
Ça fait du clic, ça rapporte sur les réseaux sociaux, ça c'est une espèce de ça part en vrille, puis ça fait du clic, puis ça suscite de l'intérêt, puis ça rapporte à la station ultimement.
Et alors, pour vous, tout ça tourne à vide, là. Vous expliquez que vous en avez un peu à votre corps défendant à certains moments, fait partie vous-même.
Ah, je l'ai fait. Il y a aussi un élément très important. Il y a la polarisation de la société. Dans une société de plus en plus polarisée, l'opinion, évidemment, ça crée un intérêt autour de certains sujets. C'est une société de plus en plus polarisée, de plus en plus bruyante, où ça, on va de plus en plus vite. Donc, tout ça, puis l'élite, l'opinion, ce n'est pas un point de vue représentatif. Je parlais tout à l'heure des gens à qui on parle, à qui on s'adresse. L'opinionneur ou l'opinionneuse en général, c'est une élite médiatique, souvent coupée de la population. Les gens qui font l'opinion ne sont pas sur le terrain. Et tout ça, cette espèce de perte de... on répète et on perd le pied par rapport à la société dans laquelle on vit. Tout ça produit donc tellement de bruit, de vitesse, une opinion à la fin de la journée n'est plus bonne. Demain, même si le sujet mériterait de vivre encore, on passe à un autre sujet. C'est vraiment comme ça que c'est conçu. Tout ça crée une espèce de perte de sens pour la démocratie. L'opinion, ultimement, ça a l'air paradoxal. Donner son opinion, c'est le summum de la démocratie. Mais cette opinion médiatique, cette opinionnite aiguë, enlève du sens à la démocratie. Puis oui, j'ai joué dans le film. Paul Arcan est un des premiers à avoir généralisé cette espèce de débat un petit peu sensationnaliste avec la commission Bazot-Dumont il y a une bonne dizaine d'années. Et tous les matins, Mario Dumont et moi opinionnions sur deux sujets d'actualité par jour. Ça en fait, ça, du sujet.
Et, opinionnions, alors là, c'est beau terme. Oui. Oui. Et donc, c'est ça, c'était le duo, le duo d'opinions campés, l'un à gauche, l'autre à droite.
Oui, puis ça a vraiment fait école un peu partout et ça continue à se propager. Toutes les émissions ont maintenant leurs opinionneux, parfois en duo, parfois en solo. Mais c'est ça, ça remplit du temps d'antenne, ça craint les réseaux sociaux et puis ça coûte quand même, au final, moins cher. Mais ça a un effet, ça a vraiment un effet. Et sur la manière dont nous, citoyens, comprenons les choses et comment la démocratie s'interprète au final. C'est une interprétation de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie.
Mais si je comprends bien, c'est une question de dosage. On peut éclairer son point de vue avec celui des autres, mais encore faut-il... Vous êtes en train de dire, au fond, qu'on a sauté une étape entre l'opinion et le fait brut, c'est-à-dire qu'on ne décrypte plus, on analyse moins, on comprend moins avant d'avoir un avis, c'est ça?
Il y a beaucoup moins de faits. C'est un fait, c'est le cas de le dire.
Oui.
Il y a beaucoup moins de faits, ça en prendrait quand même plus. Et je ne dis pas non plus que tous les opinionneurs sont à mettre dans le même dans le même sac. Il y en a plusieurs qui parlent à travers leur chapeau de n'importe quoi. On ne sait pas tout sur tout. On a beau fouiller, faire des recherches, on n'est pas compétent sur tout. Mes opinionneurs préférés sont ceux qui ont une formation ou un point de vue ou sont urbanistes de formation ou ont servi de nombreuses années en politique et donc ont une espèce de grille d'analyse, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, cette grille-là, mais ont déjà un cadre pour appréhender la société et puis parfois parlent de sujets qu'ils ne connaissent absolument pas, mais la plupart du temps ont quand même un angle précis pour essayer d'interpréter la société ou la vie politique. Après ça, quand on demande à une vedette, parce qu'elle est une vedette ou à un humoriste, parce qu'il est un humoriste, son opinion tous les jours sur le sujet du jour, il se peut que ça se délite un peu.
Bien sûr, ou un cuisinier, ou que sais-je, un chef, par exemple, on leur demande beaucoup leur avis.
On leur demande beaucoup.
Oui, en effet. On devrait leur demander leur avis, bien sûr, sur la cuisine, ce qu'ils font aussi, ce qui est déjà pas mal. Parlons des réseaux sociaux, quand même, on peut pas passer à côté de ça. En fait, on serait complètement fou de le faire, parce que c'est, même si on comprend, à vous lire, Marie-France Bazot, les origines des problèmes que vous dénotez dans les médias aujourd'hui remontent à bien avant cela. Il reste que c'est un joueur majeur aujourd'hui qui change tout, qui change notre façon d'aborder le monde et l'information et le débat et l'opinion et le reste. À ce moment-ci, quel rôle... J'ai trouvé que vous faisiez la critique... qu'on entend souvent, là, vous parlez du selfie, hein, vous dites le réseau social, c'est la perche à selfie d'une certaine façon, beaucoup de moi, mais peut-être pas assez de, vous dites créer du lien souvent dans le livre, hein, pas assez de nous.
Il y a, les réseaux sociaux apportent quand même une facilité pour le monde des médias de créer des liens, d'aller prendre le pouls, de faire des contacts, créer un contact entre les médias et la population en général.
Oui, oui, il faut que je sois juste envers vous. Oui, oui.
Accélérer l'accès à l'information aussi, ont accéléré le rythme des médias également. Il y a beaucoup d'aspects positifs aux réseaux sociaux. C'est aussi un égout à ciel ouvert. Je suis pas la première à le dire. Ils contribuent beaucoup à la polarisation aussi de la société. Ils ont mis à mal les distinctions entre le privé et le public. Pas que, mais les réseaux sociaux ont grandement contribué à ça. Ils ont grandement contribué et contribuent beaucoup à la polarisation de la société, à l'accélération, au fait qu'on ait l'intérêt à peu près la concentration d'un poisson rouge quand vient le moment d'appréhender certaines nouvelles ou qu'on se tame si vite d'une nouvelle qui n'est pas une nouvelle, qui est un fait de société et qui mériterait, par exemple, la situation du français à Montréal. On s'y intéresse pendant quelques jours, mais dans deux jours, une autre nouvelle aura remplacé ça. Et les réseaux sociaux contribuent beaucoup à accélérer le fait marquer le fait qu'on ne puisse pas s'intéresser longuement à un sujet. Mais c'est vraiment le média des années 10, des années 20. C'est le média de nos années. Et en ce sens-là, Trump ne s'y est pas trompé, qui a fait sa politique sur les réseaux sociaux et sur Twitter particulièrement. C'était devenu un canal d'expression présidentielle.
Et comme vous le dites, là, d'une façon pour lui de faire en sorte que les journalistes... court après son agenda, comme on dit en anglais, oui. Politique, c'est-à-dire
Exactement.
Qu'il est tout en avant de la nouvelle.
Oui, tout à fait. Et il aura été le président Twitter de la même manière que Kennedy a utilisé la télévision, a compris à son époque ce qu'était la télévision et il l'a utilisé de façon magistrale. Ils ont été chacun des présidents de leur époque. C'est-à-dire qu'ils comprenaient bien les médias de leur époque. Donc, les réseaux sociaux n'ont pas fini de
Non, c'est parler, ça. Est-ce qu'on est, Marie-France Bazot, devant une dans une sorte de crise d'adolescence en ce qui a trait aux réseaux sociaux? Peut-être que notre rapport à ce médium va se bonifier avec le temps, où on apprendra à mieux trier le bon grain de l'ivraie. Je présume que vous pensez que tout ça n'est pas figé là, à l'heure actuelle.
Représentatif de notre époque, extrêmement polarisée, extrêmement rapide. Je ne sais pas s'ils sont en crise d'adolescence, je ne sais pas ce qui suivra comme média qui est vraiment emblématique de sa société, mais pour l'instant, puis j'ai de la misère à prévoir ce qu'ils vont devenir et lequel supplantera Facebook, Twitter, Instagram. Ça va tellement vite de ce côté-là, ils sont certainement là pour rester. Ils sont certainement un outil de plus pour la population, pour les médias eux-mêmes. Ils sont certainement un amplificateur et puis un outil qui va rester, ça c'est clair. Mais comment vont-ils s'arrimer à la société? Ça, je ne suis pas devin.
En tout cas, pour le moment, il donne le la beaucoup hein, sur le oui. Dans le débat social, disons-le comme ça. Il nous reste peu de temps. Il y a tellement de sujets couverts dans votre livre parce que vraiment, c'est foisonnant. Puis j'invite encore une fois nos auditeurs à se le procurer, à le lire surtout, entre deux statuts Facebook, bien sûr. Vous parlez notamment du rapport des Québécois à leur territoire et vous parlez aussi et de ce rapport tel qu'il est montré dans les médias et du rôle des médias dans notre rapport au territoire aussi. Et vous parlez également des nouveaux clivages. Alors ça, c'est un autre sujet. Choisissez duquel vous voulez parler à ce moment-ci. Est-ce que, parce qu'en termes de clivage, vous dites fédéralisme, souverainisme, c'est fini. Maintenant, on est dans urbain, régional ou encore gauche-droite.
Diversitaire.
Oui, diversitaire.
Mais tout ça, on a beaucoup entendu parler. Vu que vous tendez la perche, oui. Je préférerais finir sur le territoire parce que quand je dis que les médias ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population, qui se sont coupés et puis que nous qui travaillons dans les médias avons une responsabilité, ça passe beaucoup par le territoire aussi. Le Québec ne se voit pas en général. La société québécoise s'imagine camper sur le bord du Saint-Laurent, s'imagine, et les médias nous imaginent tous Montréalais, alors que oui, bien sûr, la grande région de Montréal, qui elle-même est très très diversifiée, le 514 n'est pas le 450, et la quatrième couronne n'est pas la première couronne. Il y a toute une sociologie, une démographie très, très différente, mais on ne peut pas parler de Montréal et à Montréal de la même manière et s'imaginer qu'on parle de l'ensemble du Québec. On ne peut pas s'imaginer qu'en tournant des téléséries qui se passent dans un 8 km carré entre Rosemont-Petite-Patrie et le plateau Mont-Royal,
on va intéresser
tout le Québec, on va intéresser la Beauce en hiver, ou on va intéresser... Et donc, il y a toute un arrimage à faire. Il faut parler de tout le Québec, il faut montrer tout le Québec, il faut montrer toutes ses saisons. J'ai fait des entrevues pour promouvoir ce livre un peu partout à travers le Québec, dans différentes régions du Québec. Et la question de l'information locale a été soulevée et se pose. Montréal et dans une toute petite partie du Québec ne peuvent pas parler au nom de tous.
Le fameux montréalocentrisme, évidemment.
Exactement. Pendant la pandémie, pour parler de la première partie de la pandémie, pour parler de l'achat local, des difficultés des commerçants à fonctionner, ou pour parler des caissiers et des caissières en supermarché, ou pour parler des files d'attente devant les commerces, systématiquement, sur les ondes de Radio-Canada, donc, et au national, pas au local, au national, pour parler de tous ces sujets-là, il y avait une épicerie, l'épicerie Boyer, l'Intermarché Boyer sur Mont-Royal, au cœur du plateau Mont-Royal. Oui, tous les reporters allaient faire leur reportage-là. Tant mieux pour cette épicerie, mais c'était gênant.
Évidemment, de Val-d'Or, c'est un peu... Oui, oui, c'est ça.
Et même de Saint-Jérôme, c'est gênant. De Québec, c'est gênant. De Gatineau, c'est gênant. Est-ce qu'on ne pouvait pas demander à une station régionale de faire un reportage? Est-ce qu'on ne pouvait pas juste sortir, aller à Longueuil ou aller à Laval pour faire le même type de reportage? Il y avait une paresse et il y avait une impression, justement, qu'on prend les Québécois pour tous des Montréalais hyper montréalocentristes. On se fout des gens à qui on parle et c'en était le plus bel exemple. Mmh. Alors, il faut se réapproprier notre territoire à travers les médias.
Marie-France Bazou, vous faites des listes dans votre livre. Il y en a trois, soit de choses à faire si on veut faire carrière dans les médias. Vous faites un lexique, un bréviaire des expressions médiatiques. Et à la fin, vous faites checklist numéro trois, choses à faire si j'étais directrice de programmation d'une chaîne publique. Et là, il y a plein de bonnes idées là-dedans. Alors, ma foi, c'est ce qu'on vous souhaite.
Merci, c'est super gentil, mais je l'ai fait parce que je veux ce livre-là bienveillant et ouvert sur... Je crois sincèrement que les médias peuvent être mieux, peuvent nous servir mieux, peuvent faire société. Et il y a plein d'idées là-dedans sur comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre.
Marie-France Bazou, productrice, animatrice, autrice de Nous méritons mieux. Merci beaucoup d'avoir été là ce midi. À la prochaine.
Merci, au revoir.
Chers auditeurs, à samedi prochain, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup. Toujours, toujours très agréable de vous savoir à l'écoute.